7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Et aujourd'hui, ce sont les voisins haïtiens qui ont la parole. Et compte tenu du décalage horaire, eh bien, l'émission est enregistrée afin de permettre à ceux qui se sont manifestés sur le fil Facebook de s'exprimer. Enfin, Haïti, 5 ans après le séisme, j'ai le plaisir de recevoir une personnalité qui se distingue par sa constance. Plus de 25 ans au service des enfants, ceux dont personne ne veut, les restent avec, placés dans des familles d'accueil pour y travailler comme domestiques. Bonjour Père Miguel.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez reçu à deux reprises, à 15 ans d'intervalle en France, le prix des droits de l'homme. Votre foyer, le foyer Maurice Sixto, accueille ses enfants parallèlement à leur dure journée de travail. Vous menez, on peut le dire, une véritable croisade pour que ces enfants retrouvent une dignité, un avenir, entre autres par l'éducation, mais aussi par le jeu, par l'affection. Vous avez rassemblé votre longue expérience dans un livre, Moi, le père des 100 familles. Mon combat pour les enfants, édition Flammarion. Et vos réflexions posent aussi la question de la place des enfants dans une société haïtienne, l'un des pays au monde où les familles dépensent le plus pour scolariser leurs enfants, faute d'investissement public suffisant. Alors pour faire le point sur les progrès de la scolarisation en Haïti, nous serons en ligne avec le ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga, en deuxième partie d'émission, ancien professionnel de l'humanitaire d'ailleurs. Et bien sûr, nous accueillons donc vos interventions, les voisins. Mais tout de suite, retour dans nos archives. Écoutez l'histoire de cette adolescente haïtienne au micro d'Alice Milo lors d'un grand reportage, c'était en 2013, pour 7 milliards de voisins.
Bon, elle est Rose là. Ma vie va avec tonton.
Je m'appelle Rose, j'ai 18 ans.
Papa m'a avec, mon mère est morte.
Ma mère est morte et mon père est aveugle. Et je vis à Port-au-Prince avec mon oncle et sa femme.
Ma vie, comme ça.
C'est ça ma vie. À la maison, c'est moi qui fais presque tout. La lessive, la cuisine, tout est sous ma responsabilité. Mes journées se passent comme ça. Je me réveille tous les matins à 4 heures pour faire la vaisselle. Ensuite, je balaye, puis je lessive le sol de la maison. Quand j'ai fini avec ça, je dois me rendre au marché de Pétionville et à mon retour, je prépare le repas et le jus de fruits. Et c'est seulement après avoir fait tout ça que j'ai le droit d'aller à l'école, de 15h à 18h.
Et pourquoi c'est toi qui fais tout à la maison? C'est-à-dire que ton oncle et ta tante, ils s'occupent pas des tâches ménagères, de la cuisine, etc.
Le matin, tout
mon oncle n'est pas là de la journée, il travaille à l'extérieur. Et ma tante est souvent malade.
Santé, plus
l'elle. Mais même les jours où elle est en bonne santé, elle ne participe pas aux tâches ménagères de la maison. C'est à moi de tout faire.
Et du coup, est-ce que tu arrives à étudier, à apprendre des choses à l'école, à avoir un bon niveau scolaire malgré tout ce que tu dois faire à la maison?
Moi, je finis mon travail 10h à moi dans le plan, moi finis minuit.
À la maison, je ne peux pas me mettre à étudier avant 10h du soir où je m'efforce d'apprendre mes leçons jusqu'à minuit. Ensuite, je vais me coucher, puis je dois me réveiller à 4h du matin pour faire les tâches domestiques.
Bon, l'école est vraiment difficile.
À cause de mon manque de sommeil, en classe, je suis obligée de me concentrer très fort pour comprendre ce que nous dit le professeur. Heureusement, quand je commence à m'assoupir, j'ai mon ami à côté qui me secoue, qui me dit « Rose, Rose, écoute ce que dit le professeur. »
Ça fait me pas à l'aise, parce que moi, je sens que je travaille trop, je bouille.
J'aimerais bien être libérée de ces contraintes, parce qu'avec toutes ces obligations, j'ai jamais vraiment le temps de réviser mes leçons et de faire mes devoirs. J'ai l'impression d'être une esclave.
Est-ce que c'est vraiment ton oncle? Par filiation, je veux dire.
Par filiation.
Non. Depuis que je suis promenée à mes papas, ça vient me mettre le tonton. Mais il n'est pas
famille. En réalité, ce ne sont pas vraiment des membres de ma famille. Mais ils m'ont plus ou moins adoptée quand j'étais plus jeune.
Sous 11 ans.
C'est pour ça que je l'appelle oncle, mais c'est pas vraiment mon oncle.
Parce qu'elle était un ami avec papa depuis au Cap.
Quand j'avais 11 ans, je vivais très loin d'ici, en province, avec mon papa. Un jour, ce monsieur que j'appelle mon oncle, c'est un vieil ami de la famille. Il est venu nous rendre visite. Il a expliqué à mon père qu'il avait besoin d'une jeune personne dans sa maison. Comme mon père a 9 enfants et qu'il est incapable de répondre à nos besoins, il a accepté que je parte vivre avec ce monsieur à Port-au-Prince. Mais il a accepté seulement parce qu'il a cru que je serais bien traitée. Il n'a pas pensé qu'on m'emmenait à Port-au-Prince pour faire des travaux ménagers, pour être domestique.
Ton père, il sait aujourd'hui comment t'es traitée dans cette famille? Est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'il sait?
Non.
Non.
Il va apprendre.
Je lui ai jamais raconté.
Parce que moi, pas
je me dis. Je préfère garder la vérité pour moi, même si je dois souffrir en silence. Parce que si mon père l'apprend, ça le fera pleurer et le déshonorera. C'est pour ça que je préfère me taire.
Père Jean-Baptiste Miguel, des enfants comme cette adolescente, vous en avez rencontré beaucoup.
Et Emmanuel, franchement, en écoutant cet enfant-là, ça me donne chair de poule. Oui, parce que ça a été mon combat. Le combat pour faire de ces enfants-là des véritables enfants, avec enfance. Et quand on pense aux quantités d'enfants qui vivent dans cette situation-là,
On parle de près de 150 000 enfants placés comme domestiques.
C'est plus que ça, puisque quant aux chiffres, c'est pas toujours fiable. Parce que l'enfant reste avec, c'est un invisible. Vous voyez, quand tu vas dans une maison, tu ne vois pas ces enfants-là. Ils sont à la guerre courte, il faut pas qu'on les voit.
Des enfants domestiques, il y en a dans de très nombreux pays du monde, beaucoup en Afrique subsaharienne, il y en a longtemps eu au Maghreb, il y en a dans des pays comme l'Inde. Est-ce que le phénomène a quelque chose de spécifique en Haïti ?
Mais je crois que chaque pays a son histoire. Et l'homme est le produit de son histoire. L'enfant reste avec en Haïti est lié à l'histoire d'Haïti. Il faut dire les choses comme elles sont. Ça remonte à l'esclavage. Vous savez, le maître de l'esclave a le pouvoir de son esclave sur l'enfant qui est né esclave, donc on fait ce qu'on veut. Depuis là, on a grandi avec cette mentalité. On est tellement habitué avec, donc on devient aveugle. On ne les voit même pas. C'est rentré dans notre mœurs qu'un enfant reste dans une autre famille et qu'il ne soit pas la leur et puis qu'il subit des mauvais traitements, des maltraitances. Et puis, même après l'indépendance, ça persiste encore que des enfants continuent à vivre dans des familles qui ne sont pas les leurs.
Paradoxal, dans un pays comme Haïti, le premier à s'être libéré du joug de l'esclavage.
Oui, c'est vrai. Mais malheureusement, il y a cette séquelle de l'esclavage qui demeure encore dans notre vie.
Quelles ont été les conséquences du séisme du 12 janvier 2010 qui a fait, il faut le rappeler, plus de 220 000 morts pour ces enfants qui eux-mêmes n'avaient déjà rien?
Ça marque notre histoire encore, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu encore d'autres séismes et à chaque séisme, qu'est-ce qui paye les pots? Ce sont les enfants restés avec, qui deviennent de plus vulnérables qu'avant.
Même si l'énorme solidarité du moment du drame a, en même temps, leur a donné davantage de place dans la famille où ils sont employés comme domestiques, non? En tout cas pendant quelques jours.
Oui. Quand vous parlez de solidarité, là, il faudrait souligner quelque chose de très important selon moi. La solidarité, pour être effective, devrait commencer dans le pays. C'est à nous d'abord de faire la solidarité et ça risque de demeurer, de durer dans le temps. Mais si on parle des solidarités internationales, ça peut passer, vous voyez, comme une lettre à la poste. Et puis après, on n'en parle plus.
Justement, aujourd'hui, 5 ans après le séisme, il y a bien sûr toujours le foyer Maurice Sixto que vous avez créé il y a près de 25 ans. Quel était l'esprit même du foyer? C'était pas l'idée de sortir les enfants de leurs conditions. Ça aurait été un défi impossible.
Non. Vous voyez, des familles qui vivent en dehors et qui sont dépourvues de tout. De l'éducation, d'encadrement. De tout.
Dans les régions notamment rurales, très reculées, précisément celle où vous êtes né d'ailleurs.
Il y a deux pays dans le pays. Heureusement, j'ai eu la chance d'être né justement dans ce second pays qu'on appelle pays en dehors. Je dis ça parce qu'au moins il y a quelqu'un pour qui puisse parler en connaissance de cause de ce pays en dehors. Vous voyez. Ces gens-là qui habitent dans ce pays du dehors, ils n'ont absolument rien pour pouvoir à l'éducation de leurs enfants. Donc, ils sont obligés, par la force des choses, comme vous l'aviez dit tantôt, ces familles-là voudraient que l'enfant apprenne à lire et à écrire. Oui, fasse partie aussi de cette société.
Ce qui n'est pas toujours le cas, on l'a bien compris, dans les familles où ils sont employés comme domestiques. Vous restez avec nous, Père Jean-Baptiste Miguel. Nous donnons la parole dans quelques instants aux auditeurs qui se sont manifestés, puisque l'émission est enregistrée, à l'avance sur les réseaux sociaux pour enfin pouvoir passer dans l'émission grâce au décalage horaire qui s'efface parce qu'on enregistre l'émission l'après-midi.
Haïti, pays exani, pays vacvi, vote à calmer, c'est plus lourd face pour ton palmé. Pour chaque bêtise qu'on esquisse, businessman illégal de les têtes, yo place et y'a profité des crises.
mais c'est bon gars, mais c'est l'argent, on prie à monter grâce par des saints, c'est l'église, mais t'es l'île en nous. Les organes, zombification et qui vont clone, qui est organe, ça qui va souci, ça c'est complot. Des malins, bah c'est malin, c'est quand on prend coller, on va prendre tout, tout, pas boire, gagner, c'est quand on vend monnaie, en pile fois. Emergency exit, c'est vu comme porte d'entrée, bien ou mal, ne pas soigner, à va prendre des soins plantés. Les gens mangent, qui pas qu'à beaucoup de crottes, beaucoup de poudre. En Haïti, c'est seul le meilleur, pas qu'à jeune goutte, coup de cop. Bouche les oreilles, ferme les gels, tes pépouches. Hein, la hypocrisie, après t'es tout couche. En Haïti, ils sont machés, c'est plus sans quoi. Qu'est-ce bagaille, si c'est bon qu'ils ont l'hiver, tout pas quoi. En Haïti, cage professionnel rasté. N'importe quoi, la combinance et la brasse fait. En Haïti, sans pas d'imaginer son réalité. Yo, fiscaliser ça pour yo t'apénaliser. En Haïti, c'est là y'aura un impossible, impossible. C'est là où est-ce que t'es pensé que t'es. Réalité a dépend des positionnements. Les chaque monde qui gon bagaille pour dit parler selon fonctionnement. Tout ce qui siège, tout côté comme à bois c'est piégé. Frustration cause personnel fait kidnapper des gens. En pile organisation formée c'est pour justification con. En pile négociation faite c'est pour liquidation non. Crise d'avis violent, avantage aucun baga fait face avec système de cas toujours changer profil, même pas disparaître. Loyal plus violé qui applique tout ça qui porte et falsifié. Trop ma couille, fait porte parole, pas cabaye, rapport clarifié. Les bouillons fait négociation, on fait politique. Là une commence le projet en place, elle va faire suite. Pour te tapou yo via rose, ça pas couler le même temps. Yo bail plus important, sauf que cause solution pas printemps. Problème yo pas jamais attaquer à la base. Qu'on y a tellement des âmes, nous attaquer à la base. On a easy, ils sont machés, c'est plus sans quoi. Y'a bagaille, si c'est bon qu'ils ont l'hiver, tout pas quoi. On a easy, cage professionnel rasté. N'importe quoi, la convenance et la brasse fait. On a easy, sans pas d'imaginer son réalité. Yo fiscaliser ça pour yo t'apénaliser. Tout moi un bon phénomène kidnapping. Mou nous pas ta pensée pour beaucoup. Il n'est qui déguisé pour guérison. Les yoka en temps. Même Élysée pas voulait faire guérison sans l'argent encore. Chaque drame c'est paiement. Conséquence et conséquence. Autorité locale guérit Bosco sous sans défense. La centre commerciale le bail spécial rabais 10%. Le produit yoté augmenté de 20% le mois d'avance. Votre presse le fait gaz blanc pour forme diesel. Le fait bobine fil la coude pour forme ficelle. Ou vinaigre blanc. Yo vend globiment, même consulte l'ambassade, prenne un faux document. En plus, le monde qui paraît honnête, c'est crasse et bac. Gen excellent zone, il paraît connaître la présence. Mais bon, après couvrir ses pieds pour couvrir ses épaules. Chat, il saute sous tête, il tombe sous épaule. On a ici, ils sont machés, c'est plus sans quoi. Gen bagaille, si c'est bon qu'ils ont l'hiver, tout pas quoi. On a ici, cage professionnel rasté. N'importe quoi, la convenance et la brasse fait. On a ici, sans pas d'imaginer son réalité. Yo fiscaliser ça pour yo t'apénaliser. C'est là y'aura un impossible, impossible. C'est là où est-ce que t'es pensé que t'es ici.
En Haïti, MRJ, chez 7 milliards de voisins. On accueille un premier auditeur, une auditrice étudiante, NF, 25 ans, à Port-au-Prince. Bonjour NF.
Bonjour.
Soyez la bienvenue NF, chez 7 milliards de voisins.
J'ai été témoin d'une fillette qui était restée avec. C'est une famille qui habitait tout près de chez moi. Cette fillette était responsable de toutes les tâches lourdes dans cette famille. Et il faut dire, malgré tous les services qu'elle rendait à cette famille, on la maltraitait tous les jours. Ouf, c'était atroce. Physiquement, on la maltraitait. Psychologiquement, elle était esclave.
Oui.
Moralement, ça ne marchait pas bien. Cette fillette a fini par s'enfuir de cette famille parce qu'elle se rendait compte qu'elle n'avait pas le droit d'aller à l'école.
Oui, d'être complètement exclue. Vous, en tant que voisine, NF, est-ce que vous vous sentiez coupable de ne rien faire? Vous sentiez le devoir d'intervenir, par exemple, puisque, bon, on se parle entre voisins?
Je me sens pas trop coupable de rien faire parce que j'ai pas les moyens nécessaires pour intervenir dans cette situation. Mais je vais travailler davantage pour voir comment agir pour diminuer cette situation chaotique chez les familles qui maltraitaient toujours les enfants domestiqués chez elles.
Est-ce que c'est un sujet qu'on peut aborder facilement avec son voisin, très honnêtement?
Ce n'est pas du tout facile, un sujet qu'on peut aborder très honnêtement. Si vous abordez ça avec la famille, l'enfant va avoir envie de s'enfuir et qui va faire les tâches lourdes de la maison? c'était pas du tout un sujet abordable.
Merci pour ce témoignage, NF. On est en ligne avec Rudy, qui est à Pétionville, hein, à Port-au-Prince. Bonjour, Rudy.
Bonjour, Emmanuel.
Vous souhaitez apporter un autre témoignage sur le phénomène des restes avec?
Ben oui, justement. Dès le premier moment où j'ai vu que c'était un sujet pareil qu'on allait aborder, j'ai senti la nécessité de faire ce témoignage. Mais ce que moi, je vais partager, ça concerne quelque chose que j'ai vécu chez moi. Dans mon enfance, on a eu aussi des enfants qui habitaient la maison. Et c'est pourquoi il est important aussi de préciser qu'il y a deux types de restes avec. Il y a d'abord les enfants qui sont en domesticité chez des personnes où il n'y a vraiment aucun lien de parenté. Et dans ces cas-là, c'est toujours très difficile parce qu'il n'y a pas vraiment d'affinité, il n'y a pas vraiment de bonne relation. C'est un enfant qui vient de nulle part et que l'autre exploite à tout bout de champ. Dans l'autre situation, ce que moi j'ai surtout vécu à la maison, c'est qu'il y a des enfants, parce que mes parents au départ ils étaient en province avant de venir habiter Port-au-Prince. Maintenant, des enfants de la même famille étaient aussi habités chez nous. Je ne vais pas citer de nom, mais j'ai connu une fille qui habitait chez moi quand j'étais enfant. Elle était beaucoup plus jeune.
Mais alors, quel était son statut exactement?
Elle aidait dans la lecture, elle aidait dans la nourriture, elle aidait aussi à donner des leçons aux enfants. Elle était de la famille, en quelque sorte. Mais sauf que la domesticité, comme ça se dit, c'est quelqu'un qui sert, qui aide dans les travaux domestiques.
Est-ce qu'elle allait à l'école, cette petite fille dont vous parlez, que vous avez connue dans votre jeunesse à la maison, qui était donc hébergée par vos parents?
Justement, elle allait à l'école. Elle fréquentait une assez bonne école et elle allait à l'école. Le plus intéressant, c'était le matin.
La même école que les enfants de la famille?
Pas la même école, mais tous les enfants de la famille ne fréquentaient pas non plus la même école. Donc elle était dans une école différente et c'était un enfant assez intelligent. Elle était presque toujours première dans sa classe. On l'aimait, elle était de la famille.
Rudy, merci pour ce témoignage. Je voudrais qu'avant que nous rendions l'antenne pour le flash, laisser la parole au père Jean-Baptiste Miguel, 25 ans du foyer Maurice Sixto, qui est vraiment un foyer entièrement dédié à l'accueil de ces enfants restent avec, où on recrée la vie qu'ils devraient avoir dans les familles où ils sont hébergés. Qu'est-ce que vous pensez de ces différents témoignages? On voit bien que le sujet est difficile à aborder, même s'il existe depuis tant d'années qu'il a été maintes et maintes fois abordé dans la presse haïtienne.
Il n'y a pas longtemps qu'on parle de ce sujet ouvertement. Je pense que le foyer Maurice Sixto a joué un rôle pionnier dans cette dénonciation, dans cet éveil, à l'instar de Maurice Sixto lui-même. Parce que Maurice Sixto a été le premier à soulever ce problème de manière directe pour soulever la conscience des gens. Moi, j'ai été frappé quand j'ai entendu la petite sainte-anise de Maurice Sixto, qui a essayé d'expliquer la vie d'une petite fille qui habitait dans une famille aisée dont le père s'occupait justement des droits de l'homme. Et puis, que la petite sainte-anise était là. Et puis, comment, du lever au coucher du soleil, la vie de cette petite fille, ça vous prend aux entrailles. Moi, quand j'ai entendu ça, l'explication de Maurice Sixto, c'est ce qui m'a poussé à fonder ce foyer. Maurice Sixto a posé l'interrogation disant, mes amis, qui m'a vu nous être sainte-anise dans un gros livre là? C'est-à-dire, lui, il avait le gros livre, le livre des droits de l'homme, qu'il étudiait, qu'il feuilletait tous les jours, mais il n'a jamais vu la petite sainte-anise dans cette, alors que la petite sainte-anise était dans la maison. Donc, il était aveugle dans ce sens-là, il pouvait pas voir la petite sainte-anise. Alors, Maurice Sixto, lui, il a soulevé la conscience des gens. La petite sainte-anise.
On parle des enfants reste avec vous, donc, Père Miguel, des familles aussi qui les accueillent, comment faire changer les mentalités, comment faire en sorte que les droits de l'enfant, dont Haïti est signataire, de la Convention internationale des droits de l'enfant, que ces droits de l'enfant soient davantage respectés pour ces enfants qui sont réellement bannis de la société. Vous restez avec nous dans quelques minutes, on sera en ligne avec le ministre de l'Éducation aussi, Nesmi Maniga, à Port-au-Prince, pour faire le point plus largement sur l'accès à l'école dans ce pays, car il n'y a pas que les restes avec qui sont privés d'école en Haïti, et sur la qualité de l'éducation, avec bien sûr vos appels. 7 milliards de voisins, retour dans 3 minutes maintenant, restez avec nous.
« 7 milliards de voisins, on est ensemble. »
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI, avec le père Jean-Baptiste Miguel, dédié à la cause des enfants en Haïti. Vous êtes de passage en France, en Europe même, père Miguel, à l'occasion de la publication de votre livre, Moi, le père des 100 familles, mon combat pour les enfants d'Haïti. C'est un livre qui est consacré aux enfants domestiques. Nous sommes également en ligne avec le ministre de l'Éducation. Bonjour Nesmi Maniga.
Bonjour Emmanuel, bonjour au père Miguel et à toutes les auditeurs qui écoutent sur la radio et à travers le monde.
Nesmi Maniga, évidemment, nous parlons des enfants domestiques, mais bien au-delà, on a envie de faire un peu le point sur la scolarisation des enfants en Haïti. C'est un pays où les enfants ont la vie dure, hein, et pas seulement les enfants domestiques. Vous avez vous-même travaillé pour l'Union européenne en Afrique, vous avez été responsable pendant de longues années de la zone Amérique-Caraïbes pour l'ONG Aide et Action, qui est une ONG spécialisée dans l'éducation. Vous êtes passé par le secteur privé. Aujourd'hui, vous êtes ministre de l'Éducation. Haïti, on le sait, n'atteindra pas les objectifs du millénaire pour le développement, notamment en matière d'éducation, malgré l'aide internationale. Aujourd'hui, on a grosso modo combien d'enfants qui sont encore complètement exclus de l'école en Haïti?
Donc, grosso modo, on peut dire que 10% des enfants d'âge scolaire en Haïti continuent à ne pas fréquenter l'école. Cette réalité est intenable dans la mesure où Haïti, comme pour les autres pays, en 2000, a serait souscrit aux objectifs du millénaire, à savoir que toutes les filles et les garçons d'âge scolaire devraient être dans une salle de classe. Et ça, c'est un des droits fondamentaux de l'enfant. Il y a eu des efforts. C'est évident qu'on parle quand même de quelques années. Haïti, on était autour de la moitié de ce chiffre. Il y a eu des progrès qui ont été faits. Ceci dit, on est bien en 2015. Et il y a encore 10% d'enfants qui sont en dehors des salles de classe.
10% d'enfants qui sont en dehors des salles de classe, principalement dans les zones reculées, dans les zones rurales?
Absolument. L'iniquité continue. Ça, c'est toute cette bataille contre la pauvreté, contre l'inégalité, contre l'exclusion. C'est une bataille entre les villes et les campagnes aussi. Contre la bidonville et les villes. C'est évident que le gros du lot des enfants sont dans les campagnes, sont dans les bidonvilles, là où les parents ont moins de moyens pour envoyer leurs enfants à l'école. Parce que, hélas, en Haïti, aujourd'hui, l'un des pays les plus pauvres de la planète, l'éducation coûte très cher pour les familles. Plus de la moitié des revenus des familles pauvres est totalement dédiée à l'éducation, parce que plus de 80% des bâtiments scolaires dans ce pays, ils sont des bâtiments privés.
Oui.
Mais même si aujourd'hui les
bâtiments privés et bien souvent des entreprises commerciales.
Malheureusement, c'est le cas. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des points fondamentaux de la réforme éducative qu'on essaie de mettre en œuvre aujourd'hui. Il est évident qu'on parle de petites écoles parce que la réalité est difficile aussi en Haïti aujourd'hui. Un pays qui a environ 20 000 établissements scolaires, mais je pense qu'avec la moitié, Haïti pourrait facilement scolariser tous ses enfants si on avait véritablement investi pendant ces dernières années dans une école publique, dans une éducation publique. Je pense qu'Haïti ne s'en sortira pas s'il n'y a pas une couverture publique.
Alors, évidemment, tout le monde est d'accord avec vous. Message d'un voisin haïtien envoyé sur notre page Facebook. Où en est le projet d'école gratuite? Où en sont la rénovation des infrastructures scolaires?
Bon, ça, c'est tout un combat. Vous savez très bien, effectivement, depuis les années 2000, Haïti, les gouvernements qui se sont succédés ont tenu, ont voulu respecter des temps sur un peu cet engagement. On a bien dit qu'à 2015, 10% ne sont pas à l'école. Donc, le dernier gouvernement, le gouvernement actuel, a lancé dès le mois en 2011 un programme pour voir comment on pouvait accélérer le rythme. Évidemment, je pense, comme on le dit, ceci a été fait. On est passé de 77% de taux de scolarisation à 90%. Il y a énormément de défis parce que mettre beaucoup d'enfants à l'école sans avoir en même temps les enseignants qualifiés, sans avoir en même temps les infrastructures, on connaît très bien la dualité quantité-qualité. Très souvent, ça ne marche pas de pair. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à adresser, les défis à adresser par rapport à ce programme. Oui, il y a eu beaucoup d'enfants qui sont arrivés à l'école, mais je pense que la bataille pour la qualité reste de mise, parce que quand un pays n'a pas su parallèlement construire les infrastructures, les équipements scolaires ou former le personnel enseignant, je pense que avoir les chiffres ne veulent pas nécessairement dire grand-chose si on ne prend pas le temps de bien éduquer les enfants.
Alors justement, en ce moment, c'est la grève des enseignants. Que réclament-ils?
Il y a tant le secteur public en Haïti, environ 30 000 enseignants. L'éducation en Haïti mobilise environ 200 000 enseignants. Et là, on est en train de parler de 30 000 enseignants sur les 200 000 qui ont des revendications salariales, qui ont des revendications par rapport à leurs conditions de vie. Je pense que le secteur éducatif a été, pendant très de longues années, largement ignoré, dans la mesure où il n'y a pas eu suffisamment d'investissement public adressé à ça. Je pense qu'il faut aussi qu'on revoie les modalités de subvention de certains bailleurs, la façon dont ils subventionnent les écoles en Haïti, davantage vers les écoles, ces écoles privées, et c'est un des points de discussion qu'on a aujourd'hui. Mmh. Il est temps qu'on remette le cap sur les écoles publiques.
Oui.
Ce qui fait que, personnellement, je comprends, je partage la frustration de beaucoup d'enseignants du secteur public, même si, dans la pratique, ils continuent d'avoir aujourd'hui deux fois plus de salaire que les enseignants du secteur privé, mais c'est pas une raison pour qu'on adresse cette situation.
C'est ça. Pendant longtemps, les bailleurs ont effectivement dit, soyons pragmatiques, mettons l'argent là où ça marche. C'est-à-dire les écoles privées.
Moi, je ne suis pas dans l'idéologie publique contre privée. Je pense que une bonne école privée, évidemment, si ça va mieux qu'une mauvaise école publique, on ne conteste pas ceci. Mais on ne peut pas accepter dans un pays comme Haïti que moins de 30% des effectifs, alors là, mettons par les effectifs, moins de 30% des effectifs des enfants d'âge scolaire n'ont pas d'autre option que d'aller dans une école privée. Et je pense que c'est le virage aujourd'hui vers une réforme. Pourquoi aujourd'hui, Haïti ne peut pas ne pas pratiquement doubler son budget, cette dépense publique d'éducation. Et ça, c'est une grande norme, c'est ce qui attend des prochains gouvernements. Je pense que ça doit être un grand débat de la prochaine campagne électorale. Qu'est-ce qu'on fait du système éducatif?
Père Miguel, vous qui avez près de 25 ans œuvré avec le foyer Maurice Sixto pour l'accueil des enfants Reste Avec, mais surtout pour leur fournir une éducation, hein, en réalité, dans ce foyer, lorsque les familles acceptaient de laisser quelques heures de liberté à leurs enfants domestiques. Comment vous vous placez par rapport à ce débat sur l'école en Haïti? Vous en avez vu passer des choses en plus de 25 ans.
Il y a une chose sur laquelle il faudrait insister. On parle de 300 000 enfants restent avec qui ne vont pas à l'école, qui ne peuvent pas aller à l'école. Comme j'avais dit tantôt, les chiffres ne sont pas tellement fiables, mais quand même il y aurait quelques-uns, ce n'aurait pas été à la faveur de notre idéal de peuple libre.
Alors justement, pour revenir à votre idéal, Père Miguel, vous êtes assez critique dans votre livre quant aux bailleurs de fonds, pas les partenaires ONG qui vous soutiennent depuis des années et des années, avec qui vous travaillez main dans la main, notamment en Terre des Hommes en Suisse. Mais je veux dire, globalement, l'attitude des bailleurs de fonds qui arrivent avec des politiques toutes prêtes à l'emploi, et vous dites ça ne fonctionne pas en Haïti. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Ces ONG-là ne sont pas du pays. Je pense que, en toute sincérité, ça aurait été beaucoup mieux que ces ONG-là prennent connaissance de la réalité de ceux qui travaillent vraiment dans le pays et puis les accompagner. Oui, mais c'est pas de venir dire voilà ce qu'il faut faire, etc. Bon, naturellement, ces ONG ont leurs objectifs. Moi, je prends l'exemple du foyer Maurice Sixto.
Oui.
Si nous, on dit voilà ce qu'on veut faire pour les enfants, dans notre méthodologie d'accueillir les enfants, comment on les accueille au foyer, par exemple, le foyer Maurice Sixto, comment on accueille les enfants, on les accueille et puis on fait progressivement cette prise de conscience, refaire l'enfant, essayer de donner une nouvelle enfance à l'enfant. Donc ça prend du temps.
Les bailleurs veulent aller vite,
aller vite,
des résultats visibles
des
très rapidement.
Il faut passer par ces chemins.
Pour rendre des comptes à ceux qui ont payé.
Qui ont versé leur argent, il faut dire, on a des comptes à rendre, il faut aller un peu plus
un
vite.
Un peu comme
ça.
Les actionnaires en bourse, mais l'enfant n'est pas à côté en bourse.
Voilà,
c'est un peu ça, finalement.
C'est ça.
Nous donnons la parole à un auditeur qui est enseignant. Enesmi Madiga est toujours en ligne avec nous, le ministre de l'éducation en Haïti. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Jacques, vous êtes enseignant dans une école privée, je crois. Nous vous écoutons. Vous êtes à Port-au-Prince.
Moi, est-ce que vous voulez que je parle de l'éducation exactement? Il y a une inégalité dans l'éducation en Haïti, surtout dans les collèges. Et la base de cette inégalité, c'est à cause du moyen financier des parents.
Oui, c'est ça. On a parlé du problème du prix, mais vous souhaitiez aussi intervenir, Jacques, sur le problème de l'absentéisme des enseignants dans le privé qui, évidemment, s'en vont pendant leurs heures où ils sont payés enseigner dans le privé.
Oui, oui. Pour gagner d'argent, plus d'argent, parce que s'ils ne touchent pas leur...
Oui, bien sûr, il faut bien qu'ils vivent. Oui, on a bien compris. Je suis désolée, Jacques, la ligne se dégrade de nouveau. Toutes nos excuses, mais en tout cas, merci de nous avoir appelés pour participer à l'émission. Je voudrais qu'on donne la parole au ministre de l'Éducation, Enesmi Madiga, en Haïti, concernant le problème des salaires des enseignants qui ne peuvent pas vivre avec le salaire de l'enseignement public.
La situation, en réalité, c'est que l'auditeur a raison. C'est évident, les salaires sont bas, mais les salaires sont encore deux fois plus bas dans le privé. En fait, il y a un peu de doute dans cette situation. Je conçois que des enseignants qui ne gagnent pas suffisamment peuvent être tentés d'aller dans le privé. Et ça, c'est le phénomène de l'absentéisme. On le constate, c'est vrai. C'est un fléau qui ronge le secteur public d'éducation. Mais dans d'autres cas, il y a ceux qui sont payés régulièrement, normalement, qui laissent leur cours pour aller enseigner dans le privé. Je pense que à ce sujet-là, il faut davantage d'investissement dans le secteur public d'éducation. Haïti ne s'en sortira pas. La lutte contre l'exclusion, la pauvreté passe par ça. Mais je pense que le problème de l'absentéisme va au-delà de ça.
Oui.
Je pense qu'il est, dans ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, Emmanuel Bastide, il est important aujourd'hui qu'Haïti intéresse davantage l'enseignant à être en salle de classe, parce que le salaire ne suffira pas uniquement. Il y a des avantages sociaux pour lesquels aujourd'hui on est en train d'y réfléchir, que ce soit par le biais de l'assurance santé, que ce soit par le biais d'autres avantages. On est en train de parler d'une carte avantage enseignant qui pourrait permettre de réduire certains coûts de biens ou de services. Je pense qu'il faut être suffisamment novateur parce que la situation économique du pays...
Alors évidemment, là vous vous adressez aux enseignants, vous avez bien raison, puisqu'ils sont en grève, monsieur le ministre de l'Éducation. Néanmoins, aujourd'hui, est-ce que bon, la majorité des écoles sont considérées comme privées? Est-ce qu'on peut toujours ouvrir une école aujourd'hui comme on ouvre une épicerie en Haïti?
C'est ce qu'on essaie de voir aujourd'hui. Dans ce qu'on est en train de faire, on a fait un recensement au mois de septembre dernier de tous les enseignants publics privés. On a fait un recensement de toutes les écoles publiques privées et on est en train de délivrer pendant cette année scolaire, ce qu'on appelle la carte d'identité d'établissement, qui n'est pas un permis de fonctionnement. Donc cette carte d'identité d'établissement qui sera affichée à l'échelle de tous les établissements scolaires dira aux parents à partir de la prochaine année scolaire qu'est-ce que l'État a identifié comme école et a été déclaré et plus jamais. Cela veut dire que désormais, c'est presque une amnistie. On considère que toutes ces écoles-là on les voit en train de fonctionner. En attendant qu'ils remplissent les conditions pour avoir un vrai permis de fonctionner, au moins ils auront cette carte qui sera affichée devant l'école. Et les parents sauront. Donc à partir de 2015-2016, plus personne ne pourra ouvrir une école sans passer par les procédures qui existent par le ministère. Les faiblesses institutionnelles font que, malheureusement, beaucoup de personnes peuvent décider du jour au lendemain d'ouvrir.
Les parents sauront. Alors, Père Miguel, peut-être vous souhaitez intervenir là-dessus. Les parents sauront, mais n'ont pas toujours le choix. Hein. Néanmoins, vous parlez beaucoup dans votre livre sur les restes avec, sur ces fameuses écoles borlettes. Hein. Ce sont des. Bon, c'est une allusion à un mot que vous avez parce que ça désigne une espèce de loterie, hein, un jeu chez vous en Haïti. Donc, c'est vraiment l'école de la loterie hein, à laquelle ont accès parfois avec de la chance les enfants domestiques.
Oui. Vous imaginez quelqu'un qui va dans une école borlette, comme on le dit, et puis l'autre qui a la chance d'aller à une école où l'on peut apprendre plus ou moins. Donc ces deux enfants-là grandissent, ces deux catégories-là grandissent, chacun de son côté.
Alors, Nesmi Madiga, ministre de l'Éducation, vous dites on ne pourra pas s'en sortir si on n'investit pas davantage dans l'éducation publique, étant donné le niveau de vie des familles haïtiennes qui ne parviennent pas, même en se saignant, à scolariser tous leurs enfants. L'aide internationale aujourd'hui que vous recevez est-elle conditionnée désormais au montant des dépenses publiques de l'État lui-même pour son système éducatif? Parce qu'il y a encore quelques années, votre pays dépensait moins de 10% de son budget pour l'éducation. C'était vraiment presque rien, vous avez un peu progressé. Aujourd'hui, est-ce que les bailleurs vous mettent la pression là-dessus?
Aujourd'hui, on est à environ 13,5%. On est à environ à taux de 5% de dépenses publiques par rapport au PIB. Et là encore, il faut qu'Haïti progresse. Je vais vous donner un exemple. Lors du traitement du terme, il y a eu des enfants déplacés. Et dans les écoles qui recevaient ces enfants, certains bailleurs, certaines ONG qui avaient des programmes dédiés pour ces enfants dans la même école disaient par exemple, je donnais la quantité scolaire pour un programme d'enfants déplacés ou d'enfants victimes du tremblement de terre. Et dans cette même école, il y a des enfants qui sont du village et qui ne sont pas affectés par le tremblement de terre ne reçoivent pas le plafond. Parce que le plafond va uniquement pour le nombre d'enfants comptabilisés comme étant...
C'est ça. Donc au sein même d'un établissement scolaire, on peut avoir une école à deux vitesses en fonction de là d'où on vient. C'est bien cela, hein, Nesmi Maniga.
En fonction du financement. Un bailleur peut vous dire, par exemple, je finance un export. Ça veut dire que dans la même école, vous avez un certain nombre de salles de classe prises en charge pendant la durée du projet. Et quand le projet s'arrête, les nouveaux enfants qui rentrent
ne sont pas financés.
Ouais. Ce sont tous les illogismes des financements des bailleurs de fonds, même si ces financements ont été extrêmement nombreux. Notamment, il y a un projet de la Banque mondiale de 70 millions de dollars qui s'achèvera en 2017. Mais selon vous, ces financements ne sont pas toujours suffisamment harmonisés?
Non, ce n'est pas suffisamment harmonisé. Moi, je plaide, je les rencontre régulièrement désormais, je plaide pour qu'on change la philosophie de la subvention. Déjà, la subvention à ces écoles privées, il faut qu'on en rediscute, parce que c'est ce qui crée effectivement énormément de vols bonnets, parce qu'il n'y a pas de standards et de critères de conditionnement par rapport à ces subventions.
Merci beaucoup, Nesmi Maniga, ministre de l'Éducation en Haïti, d'avoir été en ligne avec nous. Merci infiniment.
Je suis un reste avec. Poussière de vie au destin écrit, je suis pas pro Aristide, moi je meurs de vivre en Haïti. Un reste avec slave, esclave, la bouche en bec. Ma chair, ma mère m'a vendu pour becqueter des insectes, je suis le dernier zouaille. Un jouet, un oiseau sans ailes, à mes aïeux, une question, pourquoi avoir vogué vers les îles? Je n'ai pas de maître blanc, que des négriers, négrillons, je hais l'haïtien, quand il cause comme un colon, Christophe, ce n'est pas mon nom, mais eux ils me parlent d'Hispaniola, je suis un reste avec, c'est ce qu'ils disent, alors je reste là, toujours à portée de voix, à les écouter, tendre l'oreille, quand ils chantent que je suis comme un mauvais disque que l'on raye, un sous-fifre rendu muet, affamé, voyant tout sourire comme une fleur disparue ou fanée. J'ai trop vite grandi pour pouvoir croire aux chimères. Haïti, la France t'a prise hier, aujourd'hui l'Amérique d'incarcère indépendante. Non, t'es comme moi, négresse, t'es qu'une reste avec et non un verre de René de Pestre. Moi, je voulais fuir, mais j'ai sur le dos des Stalines qui m'empêchent de quitter le mal de l'empire des Salines.
Les yeux éteints, mes paupières tombent mes cils et je rêve, et je rêve, et je rêve d'exil. Mes doigts courent sur une terre rouge, mes vagues, mon béton est armé de mes rêves de balade. Les yeux éteints, mes paupières tombent mes cils et je rêve, et je rêve, et je rêve d'exil. Mes doigts courent sur une terre rouge, mes vagues, mon béton est armé de mes rêves de balade.
Gonaïve, bleu du déboisement, je mange des ordures près de chiens errants qui confondent baise-main avec morsure, aucun danger. J'ai le choléra en cholestérol, quand ils me mordent, ils sucent mon sang, ça fait office de formol. J'entends leurs crocs et l'écho de maisons qui émettent en créole une radio interne, un son inter, la voix perçante d'une idole qui me pousse à croire en moi et que je suis une légende en mini taille pygmée, indigène ami des paroles de Jean Dominique. Mais ça ne dure que le temps d'une onde, et quand elle finit, je redeviens reste avec à qui l'espoir n'est pas permis.
Un reste avec.
Poussez, poussin, mauvaise pousse pour ceux qui ont dû oublier la passion de liberté de Monsieur Toussaint.
Les yeux éteints, mes paupières tombent mes cils et je rêve, et je rêve, et je rêve d'exil. Mes doigts courent sur une terre rouge, mes vagues, mon béton est armé de mes rêves de balade. Les yeux éteints, mes paupières tombent mes cils et je rêve, et je rêve, et je rêve d'exil. Mes doigts courent sur une terre rouge, mes vagues, mon béton est armé de mes rêves de balade. Les yeux éteints, mes paupières tombent mes cils et je rêve, et je rêve, et je rêve d'exil. Mes doigts courent sur une terre rouge, mes vagues, mon béton est armé de mes rêves de balade. Les yeux éteints, mes paupières tombent mes cils et je rêve, et je rêve, et je rêve d'exil. Mes doigts courent sur une terre rouge, mes vagues, mon béton est armé de mes rêves de balade.
Reste avec Milk Coffee and Sugar. Nous accueillons des auditeurs qui veulent dialoguer avec vous, Père Jean-Baptiste Miguel. Nous sommes en ligne avec Morgane, qui est étudiante en droit à Port-au-Prince. Bonjour Morgane.
Bonjour Emmanuel, bonjour les voisines. Mmh. J'aimerais parler de ces familles qui ont des enfants restés avec Covid-19, mais qui ne les maltraitent pas.
Oui.
Parce que ça existe. Certains les restent avec ont la chance de vivre dans une famille accueillante et aimante. Et je peux dire que j'en ai fait l'expérience. Mmh. Ma famille a accueilli une restée avec plus de 10 ans.
C'est ça, vous avez donc grandi avec chez vous sous votre toit une enfant domestique hein, qui est arrivée à l'âge de 8 ans, je crois. Et vous, vous aviez 2 ans.
Hein.
Et cette petite fille a été scolarisée dans votre famille?
Oui, elle a été scolarisée avec beaucoup de hauteur. Elle était déjà très en hauteur. Elle est rentrée en CP à 8 ans.
Morgane, la ligne téléphonique se détériore, je suis désolée, mais j'aimerais que vous nous disiez ce que cette ex-enfant domestique qui a grandi dans votre famille, qu'est-elle devenue aujourd'hui?
Actuellement, elle est infirmière. Elle travaille à l'hôpital public.
Oui.
Une jeune femme épanouie, elle est mariée. Mère de famille.
Merci pour ce témoignage. C'est bien aussi d'entendre cela, bien sûr. Hein, Morgane, père Miguel, ça correspond à quel type de réalité? C'est un reste avec qui parvient à aller à l'école, qui parvient à faire des études et à trouver un emploi comme celui d'infirmière.
C'est pas toujours répandu, cette attitude des familles qui acceptent que l'enfant réussisse. Mmh. Il y a des exceptions à la règle. C'est vrai. Il y a 300 000 enfants dans cette situation, 300 000 catégories d'enfants restent avec. Eh bien, ces enfants-là, ce qu'on souhaiterait, le combat qu'on mène justement, c'est qu'on fasse de ces enfants-là oui, des vrais enfants. Des enfants qui ont une enfance, c'est-à-dire un enfant qui bénéficie de l'affection, oui, qui n'est pas méprisé, qui n'est pas maltraité.
Comment vous travaillez justement avec ces enfants au foyer Maurice Sixto? Il y a l'école, mais il n'y a pas que l'école. Il y a par exemple des choses aussi qui peuvent sembler anodines, mais comme de fêter l'anniversaire des enfants.
Nous, on ne travaille pas, on ne reste pas seulement sur le plan scolaire. On va beaucoup plus loin que ça. Donc c'est toute une vie. On reçoit l'enfant et on essaye de refaire l'enfant traumatisé par, justement, relation.
En même temps, ces enfants ne passent que quelques heures par jour dans votre foyer.
Oui, ils viennent l'après-midi. On a commencé comme
après,
ça l'après-midi.
Après les corvées domestiques.
Après le travail à la maison. Parce que c'est le travail en soi, c'est pas mauvais. C'est pas le travail qui est mauvais. Mais c'est la façon de traiter les enfants. Façon de les considérer. C'est ce que nous sommes en train de travailler pour que la mentalité change.
Alors vous nous avez dit au début de l'émission, là, d'entendre des auditeurs qui discutent de ce sujet, qui essayent aussi de défendre une certaine catégorie des restes avec qui ne sont pas maltraités dans ces familles. C'est assez récent. Finalement, le débat était peu abordé il y a encore quelques années. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, les familles qui accueillent des enfants domestiques ne soient pas montrées du doigt socialement dans une société qui est parfaitement connectée au reste du monde, où il y a une partie de la diaspora qui est aux États-Unis, qui est parfaitement sensibilisée aux droits de l'enfant?
Sensibiliser aux droits de l'enfant, c'est vraiment trop dire. On peut compter sur les doigts, les gens vraiment qui sont sensibilisés effectivement aux droits de l'enfant.
Mais ils ont tous la télévision, ils regardent les chaînes de télévision.
Pas tout le monde. Il y a beaucoup de contraintes dans ce domaine-là.
Oui, mais il y a des familles qui sont suffisamment aisées, qui accueillent des enfants domestiques.
Mais c'est pourquoi j'ai dit que ce travail-là, c'est le travail en profondeur de changement de mentalité et de comportement. Il faut une prise de conscience de la situation. On peut créer des écoles un peu partout, même en dehors, et élargir un peu plus, désenclaver le pays un peu plus. Mais si la mentalité ne change pas, mais la situation de rester avec, la situation des enfants des rues, la façon de voir l'enfant en Haïti, ça ne va pas changer. Il faut un travail beaucoup plus en profondeur.
Les familles qui accueillent ces enfants domestiques, qui exploitent ces enfants domestiques, ne sont plus jamais condamnées par l'Église ou par les Églises?
Pas directement, puisque...
Beaucoup de soin de ne pas le faire dans cette émission.
Est-ce que les églises sont conscientes de ça? Est-ce que l'église voit la situation? Est-ce que l'église en est consciente de cette situation?
Mais vous-même, alors, vous ne condamnez pas. Quelle est votre méthode pour essayer de faire changer les mentalités? Si vous ne dites pas directement aux familles, ce que vous faites est mal.
Nous le disons, mais de manière pédagogique. On ne doit pas directement dire à la famille, puisque la famille, elle aussi, a été victime de ces phénomènes. Le père batteur, l'enfant deviendra plus tard, lui aussi...
Violent.
Violent. Donc, oui, c'est une chaîne, spirale de violence dans les familles. Donc, il faut aller beaucoup plus profond que ça. C'est pourquoi, au foyer Maurice Sixto, comme je l'expliquais dans le livre, vous voyez, c'est un travail à longue haleine. C'est pas retirer l'enfant de la famille. Où est-ce que vous allez l'envoyer?
Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir dans l'action que vous menez, dans l'accueil au quotidien des enfants, que les choses sont en train de changer, qu'elles vont changer?
Je prends l'exemple sur moi-même, qui a été conscientisé justement par Maurice Sixto. Et je me suis dit, cette voie de sensibilisation, de prise de conscience, ça peut s'élargir. Et nous aussi, on a des témoignages d'enfants qui sont passés par le foyer et c'est une goutte d'eau dans l'océan.
Vous les envoyez dans les familles, justement, à l'heure actuelle, ces enfants, ces anciens restent avec, qui ont réussi, qui peuvent parler avec les familles qui utilisent des enfants
domestiques. Non seulement ça, mais on fait de ces enfants-là des porte-parole à travers des moyens. Parfois, c'est par la musique, par la danse, par toutes sortes de choses. On a ce qu'on appelle école de talent. Oui, qui a été créé après le séisme du 12 janvier 2010. Donc, avec ça, on a des enfants qui font de la musique, des enfants qui dansent, des enfants. Ce sont ces enfants-là qui nous aident à faire ce travail de sensibilisation.
Et c'est puis une éducation de qualité aussi, qui à terme pourrait aider les familles.
Exactement.
Merci à vous, Père Jean-Baptiste Miguel. Vous avez rassemblé cette expérience dans un livre, Moi, le père des 100 familles, mon combat pour les enfants. C'est publié aux éditions Flammarion. Merci d'être passé par le studio des 7 milliards de voisins aujourd'hui sur RFI. Bonne route pour la suite de votre périple en Europe avant le retour en Haïti.
Merci beaucoup Emmanuel et merci au nom de tous les enfants qui vont bénéficier de cette émission-là. Il y a des gens probablement à prendre conscience de la situation des enfants grâce à cette émission. Donc, je vous remercie.
Merci les voisins et les voisines pour vos appels. Merci à toute l'équipe. Demain, 7 milliards de voisins. Anastasie Tudiège présentera l'émission « Quelle place pour les femmes dans l'art ?» Les voisines, évidemment, vous serez fortement sollicitées. Je vous redonne le numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71 dans quelques secondes. Le journal sur RFI.